King Kong et Godzilla ne sont pas nos invités cette semaine, mais on va parler de gros monstres et de kaiju dans l'épisode de la semaine. Aussi au programme Luca, le petit bijou des studios Pixar, qui débarque pour la première fois au cinéma. Séance tenante, saison 3, épisode 14, c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance tenante, le podcast des cinémas.
Pâté !
Ouais ! Ça commence très très fort. Bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour.
C'est Gaël. C'est Gaël en
jamais.
Face.
Il a vu, n'oublie jamais.
Pardon, je suis allé le voir. Je suis rattrapé mon retard.
Il oublie tout.
Gaël, je crois. Bonjour.
C'est cela. On parle de kaiju, mais comme les noix.
Oh là 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 là.
Ah, il faut savoir que
kaiju.
Non, non.
Pardon.
Il faut savoir que cet épisode est enregistré un peu tard et que
on
risque d'avoir des petites sorties de route. Gaël, ravi que tu sois avec nous aujourd'hui.
Non, il est plus là, Gaël, depuis longtemps.
Il a jamais été aussi en forme. Il n'attend qu'une chose, c'est rentrer chez lui. Bonjour Robin.
Les noix de cajou.
franchement, elle est canon celle-là.
Ça pourrait être une couve
Alex.
d'un grand magazine de cinéma français.
C'est vrai.
Et bonjour Lisa.
Salut Alexis.
Comment allez-vous?
Ça va et toi?
Super.
Est-ce que vous êtes prêts à parler de kaiju faut pas que je lance là-dessus. Bref, comme je disais, à l'occasion de la sortie de Kong, X Godzilla, le nouveau royaume, la nouvelle itération des aventures de nos gros monstres version hollywoodienne. On n'est pas dans le même univers que Godzilla Minus One. On va revenir justement sur les films de monstres, sur ces grands films de monstres géants. Et Gaël nous parlera d'un de ces films en particulier. On va aussi parler de le dernier film Pixar encore inédit au cinéma qui arrivera sur les écrans des cinémas pâtés très bientôt. Mais on vous dira tout dans cet épisode. Avant de commencer, on y est déjà. Que se passe-t-il, Robin? Je te vois lever le doigt.
Oui, tout à fait. Nouvel empire. Excuse-moi.
J'ai dit quoi?
Nouveau royaume.
Oui, nouveau royaume.
C'est la planète des
singes. Eh oui.
Voilà.
Super. Salut. Merci Robin. En tout cas, il est toujours là pour s'assurer que tout est impec. Pour commencer, un petit tour d'actu, puisque nous sommes déjà en avril, que le temps file. Le mois prochain, le Festival de Cannes commencera. Un petit mot déjà sur les informations que nous avons à date. La conférence de presse avec une bonne partie des films de la sélection se tiendra le 11 avril prochain en compagnie de Thierry Frémaux qui fera son allocution annuelle, j'ai envie de te dire, n'est-ce pas Gaël?
Ah
je pars sous tout contrôle. Hein.
Non, tout est bon.
Tu as 64
là,
festivals
bon.
À ton
c'est
actif,
ça.
Donc je pars sous tout contrôle.
J'étais là au premier, moi. C'est moi qui ai coupé le ruban.
Le fameux. Surtout que le premier festival de Cannes, c'était quand même une drôle d'époque pour l'histoire de France. Enfin bref.
1939, rappelons-le.
Oui, peut-être pas la plus grande période non plus pour notre République. Greta Gerwig sera donc la présidente du jury. Voici les informations que nous avons pour l'instant. Xavier Dolan sera la quinzaine des réalisateurs.
Yes.
Oui, des cinéastes.
La quinzaine des cinéastes, absolument. Camille Cotin sera la maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture. Et qu'est-ce que on peut dire déjà des films à venir pour cette sélection? Des petits pronos? On peut s'attendre
c'est moins
à quoi,
des pronos que des rumeurs, parce que c'est secret, parce que non seulement c'est secret, mais en plus il y a une tradition qui est que Thierry Frémaux, un peu comme un fait du prince, ne dévoile rien jusqu'au dernier moment, jusque la veille de sa conférence de presse, puisque c'est réellement dans la nuit qu'il envoie ses textos à ses cinéastes, à ses amis, voilà. On peut dire déjà que on est là où on est, c'est-à-dire chez Pathé.
Exactement.
Et on peut dire que Pathé, normalement, devrait avoir une... on croise les doigts, on touche du bois, mais devrait avoir une très belle année, puisque les films dont on parle, beaucoup sont produits ou seront distribués par Pathé. Et il y a évidemment d'abord le nouvel Audiard, Jacques Audiard, qui s'appelle...
Emilia Pérez.
Voilà, Emilia Pérez.
Bravo Robin pour ce
film américain.
De sécurité.
Alors moi, ce qui me fait un peu de peine, c'est que vous avez l'air impressionné.
Non.
On a oublié le nom.
C'est
bien mon champion.
Il s'est pas trompé sur le nom.
Donc d'un côté, merci, mais d'un autre,
peu passif-agressif en effet, ce qui vient de se passer.
Mais bravo.
C'est bien. Pardon, excusez-moi.
Pardon, Gaël.
Non, pas d'idée. On murmure qu'Emmanuel d'Audrey Diwan pourrait être sur la croisette. Alors, est-ce que ce serait en ouverture? Est-ce que ce serait en compétition? Sachant qu'elle, elle a déjà eu un prix à Venise. Donc, il y a quand même beaucoup de choses là qui se jouent encore, à mon avis, entre Thierry Frémaux et Audrey Diwan. On raconte que on sait que le nouveau film de Paolo Sorrentino est prêt, film napolitain.
J'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine.
Mais ça, c'est moi, hein. Ça, c'est mes petites fixettes. Hein.
C'est-à-dire c'est qu'il y a ceux qui sont,
obsédés par les musiques de films, et puis il y a ceux qui sont obsédés par les réalisateurs italiens.
Complètement.
ça fait un spectre assez large.
Ah, hein, très large, en effet.
On parle aussi de L'Amour Ouf, parce qu'on se souvient que pour la projection du Grand Bain à Cannes avait été un événement, avait joué.
Il était vraiment initiateur dans la carrière
de Gilles Lellouche. Et effectivement avait fait beaucoup pour son succès. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait interprété. On murmure aussi que Monte Cristo, le comte de Monte Cristo, le film de Mathieu Delaporte et d'Alexandre de la Patellière, pourrait se retrouver à Cannes. Et donc ça fait déjà un joli line-up pâté, on va dire.
Si on parlait de Monsieur Aznavour,
et Monsieur Aznavour,
il y a un anniversaire aussi qui tombe pendant le festival.
Et on connaît l'amour de Thierry Frémaux pour la chanson française et pour Aznavour particulièrement. On parle du nouveau Pixar.
Bien sûr, Vice-Versa 2.
Vice-Versa 2, effectivement. Sachant
le
que
premier avait été présenté également à Cannes.
Vice-Versa avait effectivement eu les honneurs d'une montée des marches.
Et puis en général, Pixar est plutôt...
Pixar est bien représenté, puisque l'année dernière, on avait pu voir Élémentaire à Cannes. Évidemment, il y aura le nouveau... Évidemment, je dis n'importe quoi, parce que rien n'est évident avec Cannes. Disons qu'on pense que le nouveau David Cronenberg, avec Vincent Cassel notamment...
The Shroud.
Pourrait être présent là-bas. Le nouveau Jia Zhangke, film un cinéaste chinois qui a son rond de serviette, on pourrait dire, à Cannes ou sur la table canoise. Comme d'habitude, l'Arlésienne de Terrence Malick. Est-ce qu'il montrera son Jésus là-bas, son film sur Jésus?
C'est son Jésus qu'il est en train de faire.
Qui serait fini, hein. Normalement, ça fait des années que c'est dans les tuyaux et normalement il pourrait être
avec qui on a déjà des noms de.
On sait que Matthias Schoenaerts fait non pas Jésus mais un des apôtres, je sais plus lequel. Bon, ils étaient 12, hein. Enfin 4, mais 12.
Tu as fait un 12. Peu plus de.
Je vois ça.
Je pense de catéchisme que moi. Donc vraiment, si tu essayes d'avoir une quelconque information, une confirmation, une affirmation de ça, ce sera pas chez moi.
Non, ça fait déjà.
Mais ça fait déjà un beau line-up.
Ouais, en parlant d'Arlésienne, est-ce que Francis Ford Coppola viendra avec son Mégalopolis?
Ouais, c'est vrai.
Il tease énormément Coppola, comme quoi le film serait bientôt.
Pour moi, ce film n'existe pas. Pour moi, c'est un faux film.
Pour moi, ce film est un puits de sous et de dollars.
Ah, il a dû en vendre des bouteilles de vin, je pense, Francis, pour financer le film. Je sais pas, j'ai l'impression. On a tellement rien vu.
C'est un anniversaire, je crois, aussi d'un de ces films. Je saurais plus dire lequel. Ça peut pas
un
être.
Film majeur qui est passé par Cannes.
De Coppola. Donc j'oublie lequel. Ah non, bien sûr, 74, c'est Conversation secrète.
Exactement, avec
Palme d'Or.
Formidable Gene Hackman.
Donc, en fait, Thierry Frémaux ne peut pas se permettre de ne pas inviter Coppola. Est-ce que il amène son film ou pas? C'est voilà. Mais oui, ça fait beaucoup de belles choses qui sont prévues et évidemment on en oublie par brouette.
Ouais, il y aura des surprises à mon avis aussi. Ouais.
La sélection canoise sera donc bientôt dévoilée, une partie de la sélection canoise, parce qu'il y a toujours beaucoup d'annonces qui sont faites entre cette fameuse conférence de presse et le début du festival, mais dans tous les cas, on reviendra bien entendu dessus dès que nous aurons plus d'informations. Pour revenir à l'actualité de cette semaine, alors je vais utiliser un mot qui a tout à l'heure fait un peu débat, mais nous allons donc parler de Kaiju.
Ça a fait débat, pourquoi? Oui, pardon. Parce que
ce qui est un jeu de mots un peu
pourri.
Audacieux. Non, mais attends.
Pourquoi ça fait débat?
C'était il n'y a même pas 10 minutes. Enfin bon, bref. On se parle de ça à l'occasion de la sortie de Godzilla X-Kong, le nouvel empire. Un film réalisé par Adam Wingard avec Rebecca Hall, Brian Thierry Henry et Dan Stevens. Un film à découvrir chez Pathé en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinéma.
Nous avons détecté un signal. Elle le perçoit. Kong. et Godzilla le perçoivent aussi. Quelque chose approche. Quelque chose que même eux redoutent.
Avant de commencer, parce qu'on l'a beaucoup utilisé, ce terme, qu'est-ce qu'un kaiju ?
C'est les monstres japonais, c'est les films de monstres, les kaiju Eiga, pour être tout à fait précis. C'est les films de monstres japonais qui sont effectivement, qui ont été inaugurés par Inoshiro, par le Godzilla de 1954 de Inoshiro Honda, et qui a tellement marché, tellement été repris, en fait, que ça a créé quasiment un... ça a créé un sous-genre du cinéma japonais où on voit ces gros monstres. Alors, il y a Godzilla, mais il y a Mothra, mais il y a... Enfin bon, il y a plein de... C'est des animaux mutants, en fait, qui sortent de l'eau ou qui viennent de la terre, ouais. Et qui sont en général issus d'une mutation radioactive et qui se battent sur la Terre en écrasant beaucoup d'humains et d'immeubles.
Mais je crois que tu nous as préparé un petit quelque chose pour tout à l'heure.
Ouais, bien sûr.
Sur un film bien iconique,
sûr.
Justement.
Bah, sur le premier.
Quoi de mieux que le premier,
Godzilla,
justement.
Inoshiro.
Incroyable.
Honda.
Mais avant de parler de ça, revenons un peu sur ce film, ou alors plutôt cette saga et cette approche hollywoodienne qu'a Hollywood, justement, d'adapter Kong et Godzilla. Il y a eu le succès extraordinaire de Godzilla Minus One l'année dernière, un film qui est reparti avec l'Oscar des meilleurs effets visuels, la dernière cérémonie. Damant le pion à tous les grands studios d'effets visuels internationaux et particulièrement américains. C'est une saga qui court depuis 2014.
Ouais. Avec le premier Godzilla de
Gareth Edwards. Son premier grand film de studio, d'ailleurs.
Il faut quand même se rappeler qu'avant ça, Roland Emmerich avait fait un Godzilla avec Jean Reno en 99.
Fin 90, mais c'était pas justement en réponse aux essais nucléaires dans le Pacifique.
Exactement.
Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Hein.
Ouais. Pas Mururoa, mais effectivement.
98, exactement.
Ouais, 90.
Parce que Godzilla, pour remettre un peu de contexte, Godzilla est un monstre qui est attiré par le nucléaire et donc
qui est le produit
du nucléaire et qui ensuite, dès qu'il y aura une nouvelle trace nucléaire quelque part sur la planète, va être attiré par cette source pour essayer de la démolir. Je schématise, hein, mais c'est une réponse japonaise à la bombe à Hiroshima, Nagasaki. Je schématise très rapidement.
Non, c'est exactement ça. C'est ma chronique. Tu es en train
donc
de me
spoiler. Je ne vais pas
spoiler
plus que ça.
Je me casse.
Mais c'est
non.
Toi. Tu t'es mis à parler de Roland Emmerich.
Non, mais ce qui est intéressant. Non, je voulais revenir sur Roland Emmerich parce que, à mon avis, il a, même si le film est beaucoup moins bon, pardon, que celui de Gareth Edwards. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté commune au film et même avec celui-là. Et avec la série télé qui est Monarch,
avec qui Kurt vient Russell et Wyatt Russell,
qui vient de débuter. En fait, l'idée c'est d'abord de déringardiser Godzilla parce que après, avec ses multiples itérations, comme tu dirais, il y a eu une espèce de ça a été galvaudé et Godzilla est devenu une espèce de monstre un peu de foire avec en général des effets spéciaux pas fameux, pas terribles et dont on se moquait un tout petit peu et qui avait fini par non plus faire peur mais plutôt amuser. Et je pense qu'à un moment donné, à la fois parce que d'un niveau technologique, on était arrivé à un moment où on pouvait recréer ces monstres sur grand écran dans des blockbusters de manière crédible et pas risible. Et ensuite, parce qu'effectivement, la peur du nucléaire s'était remis à tenailler l'humanité, on va dire. Je pense que Hollywood s'est dit, il y a un filon. Et donc, la volonté avec Emmerich d'abord et ensuite avec Edwards, mais Edwards avec une approche un tout petit peu plus différente, plus référente aussi, plus fidèle à la filmographie du monstre, il y a eu la volonté d'Hollywood de remettre en scène ce lézard.
Et moi, j'ai vraiment souvenir dans le film de Gareth Edwards qui a donc lancé cette nouvelle version de la franchise, d'une photo magnifique, d'un San Francisco crépusculaire rouge avec cette fumée, avec tous ces parachutistes qui sautent au-dessus des monstres avec leur fumée torche, rouge et leur torche rouge. J'ai vraiment cette image-là et quelque chose de plus proche des personnages au sol plutôt que devant la magnificence des grands monstres qui vont se battre sur une unité de lieu parce que ça se passe essentiellement également sur San Francisco. Mais j'ai un très très bon souvenir de ce premier gros blockbuster réalisé par Gareth Edwards, ouais. qui ensuite fera Rogue One, A Star Wars Story, qui ensuite fera The Creator, et qui bientôt fera le prochain Jurassic World d'ailleurs.
Deux choses sur le film de Gareth Edwards, qui est vraiment très bon, avec une iconographie qui était très forte, effectivement. L'apparition du monstre sur ses fonds bleus, un peu bleuté. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très fort, de très prenant. Il y a deux choses, moi, qui m'avaient plu à l'époque. C'était d'abord l'idée que, un peu comme dans le film original, le monstre n'apparaissait qu'au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure. C'est-à-dire que on retardait ça vraiment pour que son apparition soit la plus théâtrale et la plus spectaculaire possible.
Et qu'elle compte.
Exactement. Il y avait ça. Et il y avait la localisation à San Francisco, que je trouvais intéressante parce que, d'une certaine manière, c'était la tech, en fait, qui était visée. C'est-à-dire les grandes industries de la Silicon Valley. Et c'est ça que racontait aussi Gareth Edwards, c'est que le péril est toujours nucléaire, mais qu'il y a un nouveau péril, sans doute, qui est les big data, l'information et les connexions de Silicon Valley. Et je trouve que c'était une relecture, en fait, du monstre et de sa portée symbolique, qui était assez maligne et assez intelligente.
Et c'est une constante dans sa filmographie, parce que même d'une certaine façon, Rogue One, sur le vol de plan d'une arme destructrice qui était l'étoile noire, et ensuite, encore plus flagrant dans The Creator, oui, où là c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est totalement nommée, etc. Il y a une vraie constante d'une certaine manière dans ces gros blockbusters. Et c'est en ça, moi, que je suis très curieux de son Jurassic World, dont il ne va pas signer le scénario, a priori, sauf surprise, parce que c'est David Cope qui avait scénarisé les deux premiers Jurassic Park, donc Jurassic Park et Le Monde Perdu, réalisé par Spielberg, qui s'occupera du script. Mais très curieux de voir si d'une certaine façon, j'espère qu'on verra sa patte de metteur en scène à l'écran. Mais si dans les thématiques, ça reprend aussi certains de ces petits chouchous. Mais il y avait eu ce Godzilla, donc après il y avait eu Kong Skull Island. Alors ça, ce qui était intéressant avec ce film, c'est qu'on repartait dans le passé, on repartait à la découverte de l'île de Skull Island, donc un peu à la manière de ce que fait Monarch, la série télé. Et donc là, forcément, on s'attardait plus sur King Kong. King Kong qui avait été adapté il y a très peu de temps avant, au final, par Peter Jackson. C'est son premier film post-Seigneur des Anneaux.
Quand
même, il enchaînait, je pense, de deux jolis morceaux.
King Kong, c'est intéressant parce qu'on a soit cette approche liée justement à la mythologie kaiju, à Godzilla, parce qu'il y a eu énormément de films où justement les deux personnages se rencontrent, ou bien cette approche très américaine, hollywoodienne par rapport au film King Kong des années 30.
À la découverte de Kong.
Justement, le film de Peter Jackson était vraiment porté sur le côté
le film.
Kong.
C'était vraiment un remake.
Monte en haut de l'Empire State Building. Il y a vraiment ce côté-là et qui existe dans son propre univers sans avoir besoin justement de l'élargir à d'autres monstres. C'est pas un monstre, c'est un gorille, quoi. C'est vraiment le gorille qui est juste énormissime et qui est découvert et qui est amené et montré aux gens en spectacle. Alors que Kong Skull Island joue sur la carte des monstres et sur le fait que sur cette île... Alors, il y en avait déjà, quand même, des monstres...
Il y a quand même
monstres,
un T-Rex dans
le
King Kong.
Mais il y avait un côté plus civilisation un petit peu oubliée avec, effectivement, des animaux qu'on n'a plus l'habitude de voir.
Une espèce de tribu aussi.
Oui, c'est ça.
Mais comme dans le film original.
Tout à fait.
Mais en fait, on
perd cet aspect de monstre dès qu'on sort de l'île avec King Kong.
C'est ça.
Il y a un nouveau film qui s'ouvre dès qu'on est à New York.
Voilà. Et même dans la façon dont on représentait l'animal. Alors que dans le film de 2017, du coup, Kong Skull Island, si je ne dis pas de bêtises, on a cet aspect directement de monstre et qui se voit ne serait-ce que par la taille donnée au personnage. Et d'ailleurs, c'est peut-être le lien qu'on pourrait faire avec le Godzilla de Gareth Edwards. On a ici une très belle introduction, je trouve, de Kong qui apparaît en silhouette au loin avec les hélicoptères qui s'approchent. Et pareil, ce jeu d'échelle, de grandeur, de constater à quel point la créature est grande par rapport aux humains et à l'imagerie classique qu'on peut avoir. Tout comme le Godzilla de Gareth Edwards, qui était gigantesque.
Et par la suite, il y a eu donc trois films maintenant où... Il y a eu une suite à Godzilla, Godzilla le roi des monstres, qui était une suite directe au Godzilla de Gareth Edwards, puis un film où les deux sont...
Qui introduisait déjà pas mal d'autres monstres et
un univers plus élargi. Et en fait, ensuite, il y a eu la confrontation entre Kong et Godzilla. Et cette semaine, Eh bien, ce n'est plus une confrontation, mais c'est un véritable buddy movie entre
l'arme fatale,
entre le lézard et le singe. Tout un programme.
Ouais, l'arme fatale, de l'arme fatale.
Belle référence.
Ouais. Trop vieux pour ces conneries.
Exactement. Mais qui dit ça? Kong, je pense. Kong, il n'en peut plus. Il est trop revu. Mais qu'est-ce que tu nous avais préparé, Gaël? Tu nous parlais tout
une
à l'heure.
Une petite chronique.
Une petite chronique. Eh bien, c'est parti pour la chronique de Gaël.
Et donc, les monstres sont de retour.
Ça fait peur, hein, déjà.
Ouais, bien sûr. Donc, quelques semaines après le succès fulgurant du Godzilla Minus One, débarque donc Godzilla X-Kong, un énorme blockbuster dont le carton annoncé devrait installer la grosse bête au sommet, non pas d'un Empire State Building, mais de notre Star System. Ça pose forcément une question, c'est d'ailleurs le sujet de ma chronique, pourquoi le monde entier s'est-il soudainement pris de passion pour la bête ? Il faut refaire en fait un peu d'histoire. En réalité, il existe deux Godzilla. Il existe le monstre expiatoire et l'icône populaire. D'un côté, il y a le lézard géant qui meurt, réduit à l'état de poussière radioactive, à la fin du premier film en 1954. Film de Hinoshiro Honda, on va y revenir. C'est un film qui porte son nom, Gojira en japonais, Godzilla pour les occidentaux, et qui reste pour toujours le symbole du traumatisme collectif japonais. Et puis de l'autre, il y a le monstre qui apparaît un an plus tard, devient la mascotte de tout un peuple, et même du monde entier, et qui surtout devient l'incarnation suprême du cinéma de SF nippon, et accessoirement une icône de la sous-culture, avec des produits dérivés aux États-Unis, en Europe, et notamment en Italie, où on a une version italienne du film, de Godzilla, hein, avec un nouveau montage qui fut signé Luigi Cozzi, une nouvelle musique et un nouveau nom puisqu'on appelait ça Godzilla, en hommage à Luigi Cozzi. Bref, depuis 1954, c'est un monstre schizo qui nourrit le cinéma fantastique. Il y a la créature qui terrifie les foules, rase des cités entières et affronte des dizaines de créatures aussi titanesques. Et puis le Godzilla surgit des eaux pour devenir la vedette de plus de 30 longs métrages, mais aussi de séries télé, de bandes dessinées et de jeux vidéo. On lui a même attribué une étoile sur les pavés d'Hollywood Boulevard. Et pour sa pérennité en tant que héros de franchise cinématographique, il est entré au livre Guinness des records en 2014. Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans le film de Hinoshiro Honda, donc, un des films les plus influents et les plus terrifiants jamais tournés. Ceux qui ont vu le film de 1954 s'en souviennent forcément. D'abord le silence, et puis des bruits de pas tétanisants, un cri ou un grognement, on ne sait pas trop, et puis cette typo en blanc sur noir qui apparaissait. Alors bon, c'était des lettres japonaises, donc je ne peux pas les faire, mais nous, en français, enfin en Occident, on avait marqué « Godzilla ». Et juste après cette image, on se retrouvait à bord d'un bateau de pêche dont l'équipage était surpris par une lumière aveuglante. Un truc horrible et mystérieux surgissait du fond des eaux et c'était fini. On savait que cette séquence s'inspirait d'un vrai fait divers. En 1954, le Daigo Fukuryu Maru, un tonnier japonais, est contaminé par des retombées radioactives lors d'un essai nucléaire de Castle Bravo dans l'atoll Bikini. C'est la bombâche la plus puissante jamais testée par les États-Unis. Après la destruction du bateau, on envoie une autre embarcation pour enquêter, détruite également. On comprend vite que le coupable est donc un monstre de légende, Godzilla. Mais Godzilla n'est pas qu'un lézard de conte de fées, c'est un dinosaure des temps anciens et il a été réveillé par la bombe nucléaire. Il faut un peu de contexte. Moins de 10 ans plus tôt, puisqu'on est en 54 donc, moins de 10 ans plus tôt, l'Amérique, en guerre, bombardait Hiroshima et Nagasaki. L'ADN de Godzilla est donc celui d'un film trempé dans la peur et la dévastation engendrée au Japon par l'avènement de l'âge nucléaire. Tokyo a été mise à feu et à sang par une force d'invasion, l'exode a forcé des milliers d'individus terrifiés à prendre la route, une menace indescriptible à laquelle nul ne peut échapper a surgi, autant de souvenirs du conflit encore frais dans les mémoires du public japonais qui trouvait un écho indiscutable dans le film. Depuis 1954, Godzilla est donc devenu la mascotte de milliers d'enfants japonais et son image s'est considérablement émoussée depuis sa première apparition à l'écran. Sans doute aussi parce que l'on connaît mieux sa silhouette que les films dont il fut le protagoniste. Avec le premier Godzilla, Honda imaginait en fait un canevas qu'il réutilisera presque systématiquement dans tous ses kaiju, donc les films de monstres comme on disait, c'est-à-dire que la bête n'est qu'un symbole de la peur atomique. Elle stigmatise à la fois le traumatisme d'un peuple hanté par la guerre et le désarroi du Japon moderne face à ses démons ancestraux. C'est un cinéaste, Honda, indéniablement pessimiste et qu'il ne parviendra jamais d'ailleurs à la légèreté, y compris quand il fera des films plus ouvertement influencés par le serial, le dessin animé ou la BD.
On pourrait parler de la revanche de King Kong, de Mechagodzilla, contre-attaque ou de Latitude Zéro, mais bon, ça, ce sera pour une prochaine chronique. Son œuvre, en fait, est celle d'un grand metteur en scène à l'imagerie dérangeante qui jouait souvent sur des paradoxes, des jeux troublants de proportions et de brusques changements d'échelle. Une scène, moi, m'a toujours frappé dans le premier Godzilla. Un petit enfant en pleurs est passé au compteur Gégère par des savants totalement impuissants. Au fond, chez Honda, la première victime est le peuple japonais. La catastrophe frappe les classes les plus bas de l'échelle sociale selon une logique qui épouse de près la réalité économique du pays. Ici, c'était les pêcheurs. Et face aux catastrophes, le cinéaste dépeint la raideur des militaires, des diplomates ou des policiers réunis en d'interminables conciliabules. C'est l'impuissance d'un pays qui apparaît, mais aussi un nouvel ordre mondial imposé par les Américains qui plonge ses racines dans l'humiliation subie par le Japon. Ce n'est pas pour rien que les effets spéciaux privilégient d'immenses maquettes et réduisent ces armées de pacotilles à de simples jouets aux mains d'officiers complètement débiles, voire neuneux. Au fond, Godzilla, c'est un constat d'échec. C'est la vision d'un cinéaste accablé par la vision de son pays colonisé de l'intérieur par l'Amérique. Et il y a quand même une belle ironie à voir les majors américaines reprendre ce monstre pour en faire un héros de blockbuster.
Bravo
Gaël, merci bravo, beaucoup. Bravo. Mais tu parles de héros de blockbuster, ce qui est intéressant, puisqu'on compare les films qui sortent d'Hollywood d'une part et Minus One de l'autre, c'est de voir l'approche que Godzilla a dans ses films, dans la version américaine, que ce soit le film Gareth Edwards jusqu'au dernier. Godzilla est un personnage, on va dire, gentil, si on fait quelque chose de très manichéen, hein, et dans Minus One est un pur monstre horrible, est une menace incompréhensible, énorme, gigantesque, etc., comme dans le film dont tu viens de nous parler. C'est intéressant de voir cette réécriture américaine pour en faire un personnage gentil au final, enfin gentil, du moins coopératif et allié des humains.
Mais t'as presque envie d'acheter la peluche,
en fait.
C'est ça qui est à la fois génial et en même temps effrayant tragique par rapport à Hollywood. Mais moi, ça m'amuse, tu parles de Minus One, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que dans Minus One, on revient à ce qui faisait la force du film de Honda et du mythe, c'est-à-dire que c'est effectivement une espèce d'incarnation, d'un mauvais esprit fantasmatique d'une certaine manière. Inarrêtable.
D'une façon ou d'une autre, qu'il faut détruire.
Et ce qui intéresse les cinéastes japonais qui s'emparent, enfin les vrais cinéastes qui s'emparent de Smith, c'est les humains qui sont là et qui sont au cœur de ces problématiques. Et dans Minus One, on voit les gens qui essayent de s'en sortir, qui essayent d'échafauder des théories. D'ailleurs, Gareth Edwards, c'était une des grandes forces de son film, c'est qu'il y avait un cœur humain qui était très fort. On voyait, il y avait toute le pré-générique avec Juliette Binoche
Bryan Cranston
qui donnait en fait le tempo humain d'une certaine manière du film. C'est-à-dire qu'il n'était pas dupe, au fond, de la véritable identité de ce monstre.
Très envie de revoir ce Godzilla de Gareth Edwards que j'ai pas vu depuis pas mal d'années. Eh bien, ça sera regardé ce soir en Blu-ray. Godzilla X Kong, le nouvel empire, ça sort donc cette semaine dans toutes les technos chez Pathé. Aussi un film qui va sortir très bientôt dans les cinémas Pathé pour une séance exceptionnelle, c'est Luca, le film des studios Pixar réalisé par Enrico Casarosa.
S'approche jamais, jamais de la surface. C'est clair ? Tout est génial à la surface, tu vas voir. La marche, l'air, le ciel, les nuages, le soleil. Non, faut pas le regarder. Je rigole, bien sûr qu'il faut le regarder.
Luca, le film Pixar, le seul film Pixar qui n'est pas encore sorti au cinéma en France, puisque les films qui étaient sortis pendant la pandémie sur Disney+, à savoir Soul et Alerte Rouge, sont sortis tous les deux en France, dans des sorties assez limitées, hein, comme ça sera le cas pour Luca, je vais vous donner la date dans un instant. Mais en tout cas, c'est la première fois que Luca sort en France au cinéma. Ça sera donc le dimanche 14 avril, dans tous les cinémas Pathé, l'occasion pour nous de revenir en quelques mots sur ce qui nous avait plu quand on avait pu découvrir ce Luca, et surtout ce qu'on avait vraiment envie de redécouvrir peut-être au cinéma. Qu'est-ce qui se passe, Lisa ?
Non, je rigole parce que je ne l'ai pas vu.
Oh là là ! Bravo,
mais
Lisa.
Mais du coup, pitch-moi tout, là, comme ça, je vais aller
le voir. Est-ce que tu as envie qu'on te donne envie d'aller le voir ?
Exactement.
Alors, ça sera la tâche de Robin. Pourquoi ? Ça parle de quoi, Luca, en quelques mots ?
Luca, ça parle de l'été et de l'Italie.
Oh, et déjà, est-ce qu'il
y a des Fiat 500 ?
Il y a des glaces, il y a des Fiat 500, il y a des pâtes.
Il y a un monstre marin.
Luca, ça donne faim, ça donne envie de se faire une petite assiette de pâte bolognaise le soir
dans les cinq terres en Italie
et de faire du vélo.
C'est le officiellement le film le plus Miyazakiesque de Pixar. C'est quasiment un remake de Ponyo. Donc si tu aimes Ponyo, tu dois voir
donc,
Luca.
Mais c'est donc un film qui donne envie de faire du vélo, hein, pour reprendre ce que vient de dire Robin. Et ça, c'est peut-être le meilleur argument. Parce que bon, film, Miyazaki...
On a un cinéphile de fou qui nous cite Miyazaki et un cycliste de fou.
Cinéphile du dimanche.
Tu fais du vélo et le soir, je te fais une bonne assiette de pâte bolo.
J'ai très faim.
Putain, c'est vrai, la télé, j'ai la dalle.
Ouais, c'est terrible.
Ah, je vous ai donné
faim. Ça mange de la gelato.
Vous allez voir, dès que vous serez devant Luca.
Molto bene.
Donc Luca, c'est l'histoire...
Pente très dangereuse. Je n'ai pas la carte italienne. Donc je ne peux pas me permettre, là j'ai déjà dit gelato avec un accent assez douteux, j'ai la carte bretonne, mais malheureusement il n'y a pas vraiment d'accent breton, donc voilà, continuons. Luca, donc ça parle de quoi?
Luca, ça parle d'un enfant, d'une créature à nouveau au fond des océans, on peut à nouveau parler de Godzilla, donc une créature un qui est au fond des eaux, un peu plus gentille, qui...
Qui rêve, mais
par un concours de hasard, va sortir de l'eau. Et donc, c'est une créature amphibienne qui a des nageoires, qui a quand même un visage marqué monstre. Il y a vraiment ce jeu avec le côté monstre humain qui, lorsqu'il sort de l'eau, a une apparence tout à fait humaine de garçon classique.
Mais dès qu'il est au contact de l'eau, hop, une goutte d'eau.
Exactement.
Il se transforme en... Comme dans la série H2O, souvenez-vous.
Comme...
Personne ne se souvient.
Et donc ça, déjà, il y a un joli jeu, je trouve, dans le film, par rapport à la narration, par rapport à cette peur de l'eau du personnage. Et donc, son but, c'est de découvrir un petit peu la ville italienne dans laquelle il
sont. C'est vraiment les cinq terres. Hein. On est vraiment, tu sais, dans cette espèce de village très coloré. Alors, Pixar, c'est un studio d'animation américain.
Cinque Terre.
Oh, il l'a refait. Incroyable.
Et donc, une rencontre se fait avec un garçon italien et
Alberto. Et le début d'une belle amitié.
Exactement, le début d'une belle amitié et avec un but à venir de gagner une course de vélo. Et pour gagner là, c'est ça l'enjeu principal.
La Champions League.
Là, pas cette fois. Pour gagner la Vespa et pouvoir partir à l'aventure autour du monde.
Il a une mémoire très très fraîche du film. Tu l'as vu quand la dernière fois?
Je l'ai vu quand il est sorti.
Il a une mémoire très,
c'est pour ça que j'ai cherché quand même. J'ai un petit peu creusé pour aller à la suite.
Moi, globalement, les pâtes au pesto, les belles couleurs et
l'amitié
entre les deux.
C'est vrai que c'est plus des pâtes au pesto. Je disais bolognaise, mais
c'est totalement des pâtes au pesto. Ah, bah j'ai ça, tu vois. C'est le seul élément.
Écoutez, on va aller revoir Luca pour savoir. En tout cas, il y a des pâtes.
Au risque de spoiler quelque chose, c'est une histoire d'amitié et d'amour aussi.
C'est toute l'interrogation. Sur d'accord. le papier, c'est une histoire d'amitié. Après, rien n'empêche d'imaginer.
Parce que justement, c'est ça qui m'intéressait. Et c'est là-dedans où, pour moi, le film avait fait parler de lui parce que c'était peut-être l'une des premières fois ou la première fois que.
C'est jamais sanctuarisé de manière très très claire.
En tout cas,
une relation intime entre deux garçons, mais deux enfants.
Ouais, je sais que ça avait été.
Mais t'as quand même aussi ce discours sur l'acceptation des différences.
C'est pas Call Me By Your Name, hein, si tu veux savoir.
Aucune pêche dans ce
non.
Non, on est sur du Miyazaki plutôt que Luca Guadagnino.
Mais donc, la grande force de Luca, c'est quand même, on l'a un petit peu évoqué, c'est l'ambiance que le film arrive à créer autour de ce village d'Italie, autour de la culture italienne, des... Alors, est-ce qu'on est dans une certaine représentation peut-être de certains clichés, je sais pas.
Oui, mais comme Ratatouille était
pour
Paris.
Voilà, exactement. Mais c'est jamais pour se moquer de ça, et c'est toujours pour le mettre en valeur et montrer justement
c'est
la richesse.
C'est une Italie fantasmatique.
Oui, exactement.
Et d'une certaine manière, c'est pour ça que moi, je pense. Alors, en dehors du fait que vraiment le film a des parallèles avec Ponyo, mais je trouve que c'est aussi la manière dont Miyazaki dépeignait son Occident un peu fantasmé, tu vois, avec les belles maisons qui amenaient sur des bords de mer, et donc c'est à sa compense, c'est-à-dire que c'est italien, mais c'est une Italie comme tu dis, comme Ratatouille, quoi.
Mais moi, ça me fait presque penser à la version de l'Italie que nous proposait dans les parties gays de son film Del Toro, dans son Pinocchio. Il y a un truc de vouloir dépeindre un aspect. Alors forcément, dans le Pixar, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, mais je trouve que j'aime beaucoup l'approche, j'aime cette envie de dépeindre ce cadre-là, de cette façon-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Luca, c'est cet esprit presque du huis clos. On est toujours dans ce petit village avec lesquels quelques rues qu'on connaît, les quelques personnages secondaires, le chat un peu récalcitrant, la famille qui habite dans l'eau, donc du personnage de Luca, ouais. qui, elle, ne veut pas que son fils aille se balader. Même.
Alors, c'est pas du spoil, mais cette scène très drôle où les parents sortent de l'eau et pour essayer de trouver leur enfant, qui est donc transformé en humain, jettent de l'eau sur tous les enfants qu'ils croisent ou jettent les enfants dans l'eau pour voir s'ils se transforment. Il y a vraiment un jeu du gag dans le film qui est toujours bien mené.
Il y a ça, et voilà, il y a des couleurs extraordinaires. Et puis, le film, je trouve vraiment le film drôle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très touchant, mais je trouve qu'il a une vraie place particulière en fait, dans la filmographie de Pixar, où ça ressemble à un petit film. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on regarde les Pixar récents, que ça soit Soul, que ça soit Vice Versa 2 qui sort là, que ça soit Alerte Rouge...
Même Élémentaire.
Tout à fait, Élémentaire, c'est des films qui voyagent avec des multitudes de personnages, des grandes villes, un sentiment d'aventure. Là, on est vraiment sur une toute petite fable de deux personnages qui évoluent dans ce petit village.
Mais c'est ça qui lui donne sa grandeur un peu.
Je trouve ça fantastique. Parce que justement, il y a cette promesse ensuite de partir à l'aventure encore plus loin, mais ça, c'est ni ton sens.
Ça faisait un peu une respiration dans la filmographie de.
Clairement. Et cet aspect.
Du coup, tout est maîtrisé, tout est fort, quoi. Et vraiment, c'est. Et alors, du coup, ça me faisait penser à autre chose. Tu l'as un petit peu mentionné, effectivement, les enjeux ne sont pas importants, en fait.
Il n'y a pas d'antagoniste.
Alors attention, au-delà du côté d'un personnage qui est une créature monstrueuse, entre guillemets, par rapport à la vision qu'ont les gens de ce village, qui va sortir pour essayer de se faire accepter d'une façon ou d'une autre. En dehors de ça, l'enjeu principal qui est de gagner une course de vélo entre enfants,
c'est ça.
Il est pas important et c'est grâce au chemin qui va amener à ça que le film en devient touchant, beau et très enfantin. Et ça me fait penser un peu à Miyazaki, justement, ce que tu disais.
C'est juste une péripétie d'un été classique pour des enfants, quoi.
Avec l'importance que ça a. Pour.
Pardon. Voilà, il a failli jeter son micro à travers la table.
Mais l'importance que ça a quand on est enfant, justement, pour l'été et pour le fait de gagner une course de vélo.
Mais c'est intéressant, quand tu dis les enjeux ne sont pas très importants, je trouve que c'est marrant parce qu'on est dans un moment où, au contraire, les enjeux et le message passé dans les films d'animation aujourd'hui et me paraît, il faut savoir si ça parle de la mort, si ça parle de l'adolescence, du rapport à la mère et aux parents, machin. Et effectivement, Luca, il y avait cette espèce de bonbon estival.
On sort de Soul et d'Alerte Rouge que moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il y a la mort. Il y a la mort d'une part et de l'autre côté l'adolescence et la puberté. Et là, d'un seul coup, on est sur une petite parenthèse ultra rafraîchissante. Et je redis encore une fois, mais d'une beauté visuelle absolument folle, quoi. Et ces couleurs, moi, j'ai souvenir de cette eau, tous les aliments. Il y a un truc vraiment de sublime dans ce film-là.
Les pâtes
au pesto.
Arrête, j'ai faim, arrête. Ouais.
Pareil. Bref, qu'est-ce qu'on t'a donné envie de voir?
Évidemment que oui. Non, mais en plus, c'est un film pour le coup qui est sur ma watchlist depuis des années.
Sur ta liste d'envie.
Sur ma liste d'envie.
Mais un des meilleurs Pixar. Vraiment, des meilleurs de ces dernières années.
Oui, voilà. Oui. Il y a quand même beaucoup de films. Non, c'est vrai.
Mais de ces dernières années, je trouve que
tout le monde a levé le bouclier d'un coup.
C'est un film pour moi qui a l'air de faire l'unanimité, en fait.
Ouais, bien sûr.
Malgré justement ce que vous dites sur sa. Petite envergure par rapport au reste.
C'est qu'il a pas de prétention, mais du coup, il réussit absolument.
Oui,
tout.
Du coup, ça avait créé la surprise, j'imagine. Eh bien, je vais le rattraper d'urgence.
Luca, un film donc des studios Pixar à découvrir pour la première fois en France au cinéma le dimanche 14 avril dans tous les cinémas. Pâté. On approche de la fin de cet épisode. Que vous dire d'autre justement dans les rendez-vous à venir? Aussi à l'affiche cette semaine, notre label L'Autre Regard, quelques jours pas plus. Mais aussi un film qui avait tout remporté à l'Alpe d'Huez, au festival de la comédie de l'Alpe d'Huez, c'était Et plus si affinité, qui sort cette semaine au cinéma. Et autre comédie familiale, Ducobu passe au vert. La cinquième aventure, rendez-vous compte, de notre élève un peu farfelu.
Turbulent.
Oh oui, il est turbulent. Tu penses qu'il y a ça sur le bulletin?
Ouais,
turbulent. N'hésite pas vraiment à t'éloigner encore plus du micro quand tu réagis. Non, là, mais
je suis revenu.
T'es à 4 mètres maintenant. Tu t'es mis dans une autre pièce.
Je m'allonge.
Oui. La journée était longue pour Gaël. Autre rendez-vous à venir ce dimanche, une séance cinéite sur le film L'Écoriste avec Gérard Jugnot. La semaine prochaine, un épisode bien particulier puisqu'il s'agira d'un épisode réalisé en public avec l'équipe de Noulet Leroy et notamment Florent Bernard, son réalisateur. Un épisode enregistré au Pâté Alésia et nous, on se retrouvera pour un épisode plus classique la semaine suivante pour les sorties du 17 avril en compagnie de toute l'équipe. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour des micros du podcast. Merci Lisa.
Merci beaucoup.
Merci Robin.
Merci beaucoup.
Et merci Gaël.
Merci.
À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.